Les balados au IC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série d'entretien Pop en stock.
Chers auditeurs et auditrices, popophiles et popologues, bienvenue dans notre nouvelle émission donc de notre podcast Pop en stock, nouvelle mouture, transatlantique, internationale, zoomesque. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir aujourd'hui Mégane Bédard, qui se retrouve donc pour en quelque sorte de l'autre côté du micro, puisque c'est elle qui a pendant longtemps animé la version Pop en stock sur Choc et qui était présentielle, qui était dans un climat beaucoup plus convivial. Maintenant, on se retrouve donc un peu dans ce nouveau système, mais qui nous permet par contre de faire des entretiens un peu partout, ce qui est très intéressant. Donc, on est doublement content d'avoir Mégane, d'un côté par toute sa trajectoire à l'intérieur de Pop en stock, et de l'autre côté par le fait que son excellent travail de maîtrise que j'avais eu la chance de diriger en 2017 sur, je cite, « Mécanismes de reproduction extraterrestre, étude des dynamiques d'expansion transmédiatique et transfictionnelle de la franchise Alien » est désormais devenu un livre « Xénomorphe, Alien ou les mutations d'une franchise » paru l'année dernière chez Ta Mère 2020 et qui en fait est une refonte totale avec un angle assez différent et qui au fond crée deux visions pratiquement, enfin, même si l'argument central reste le même, mais au fond c'est vraiment deux ouvrages assez complémentaires. Donc merci beaucoup Mégane d'être avec nous.
Ben, merci de m'avoir invité à venir en discuter. C'est tout le temps un plaisir de parler d'Alien. Je ne m'attends toujours pas. Même,
je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi un plaisir d'en écouter parler. Donc, le point principal, ce que tu recueilles dans les deux titres en réalité, donc l'un forcément plus académique et l'autre plus punchy, l'argument principal au fond, c'est que il y a un parallélisme à faire que tu fais entre la façon dont fonctionne le xénomorphe, donc la créature d'Alien, et donc son processus d'adaptation et de colonisation, avec finalement la façon dont la franchise qui s'est créée autour d'Alien elle-même évolue et se transforme jusqu'à aujourd'hui, donc traversant différentes œuvres de fiction, mais aussi des plateformes médiatiques, donc transitant du cinéma aux jeux vidéo, à la bande dessinée, à la littérature, etc. etc. Et tous les deux, d'une certaine façon, la franchise et l'extraterrestre choisissent un hôte, donc un humain ou un média, et s'en approprient les caractéristiques biologiques ou sémiotiques afin de se reproduire et de s'adapter. Donc ça, c'est le point principal de l'argumentation. Et parallèlement, ce que tu développes beaucoup dans la nouvelle mouture, c'est d'un côté toutes ces extensions, et on va voir que tu t'intéresses vraiment à tous ces phénomènes que je viens de citer, donc autant le cinéma, le jeu vidéo, la bande dessinée et les romans, puisque romans, il y a une tradition romanesque autour d'Alien. Et en même temps, tu t'intéresses beaucoup à la dynamique elle-même des franchises. Et c'est comme ça que tu commences l'ouvrage, donc dans le premier chapitre, c'est vraiment les rouages de la machine des superproductions culturelles et sur la manière dont naissent et grandissent ces franchises monstres auxquelles maintenant on est devenu par la force extrêmement habitué. Ils ne laissent pas de faire un peu problème.
Non, c'est ça qui est si intéressant avec la franchise Aliens, parce que ces phénomènes-là de multiplication, adaptation et compagnie ont commencé alors que ce n'était pas nécessairement quelque chose de systématisé comme aujourd'hui avec les Marvel, Star Wars et compagnie, où maintenant le transmédia, c'est, c'est la norme presque de la culture de masse, là.
Et le
Puis,
but de beaucoup de
ouais.
créations, même de, il y a des films où on voit bien qu'ils sont un peu pensés, ou des romans, ou des bandes dessinées, où l'objectif n'est plus vraiment de faire le film en soi, mais on voit que ce qu'on veut, c'est créer les germes d'un truc qui pourra rapporter beaucoup d'argent par
C'est
la
ça
suite.
qui pourra devenir un univers et comme ça, rapporter beaucoup d'argent. Il y a aussi le fait que je sais tout le temps à mentionner, c'est l'argument central justement aux mémoires et aux livres. C'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, c'est un argument que j'ai tombé un peu par hasard quand je faisais mes premières lectures de maîtrise dans un article écrit par Karen Leto en 2011 que j'aime bien citer parce que c'est vraiment ça qui a été le germe de tout ce projet de recherche-là. Et c'est ça, donc tout l'argument que les franchises, mais surtout le xénomorphe, soit une figure qui est une métaphore des processus d'adaptation des franchises, elle le mentionnait dans l'article, mais sans vraiment le mettre à l'épreuve, parce qu'un article, c'est une quinzaine de pages, pas besoin, on n'a pas le temps d'analyser une franchise au complet. Puis c'est ça, j'ai voulu un peu mettre cet argument-là à l'épreuve en allant vraiment puiser dans des exemples spécifiques. Puis dans la mémoire de maîtrise, encore là, par contrainte de temps et de budget et compagnie, je m'étais pas mal juste concentrée sur le cinéma, le jeu vidéo et la littérature. Puis c'est avec le projet de recherche donc, que tu co-dirigeais avec Samuel Archibald, Rêve en boucle, que là, j'ai eu l'occasion de prendre le temps de tout lire, tout consommer, tout catégoriser ce qu'il y avait dans la franchise Alien. Donc, on a les tableaux à la fin du livre de Xenomorph, là, où est-ce que j'ai pu comptabiliser tout ce que j'avais trouvé, puis ensuite les relations entre chacune de ces œuvres-là. Donc, qu'est-ce qui est la
Oui,
suite de quoi et tout, là.
c'est ça, c'est
Ouais.
des annexes vraiment très intéressantes aussi pour tous les fans d'Alien, où on trouve d'un côté une liste exhaustive des œuvres de la franchise, avec une typologie du type de rapport qu'ils entretiennent les uns avec les autres, et la seconde partie des annexes propose des parcours de lecture ou de spectature, donc selon ce qui intéresserait le plus le lecteur pour se faire un peu une trajectoire dans un parcours qui est quand même extrêmement labyrinthique. Il faut le dire que c'est rendu une franchise. Enfin, les gens qui ne connaissent que les films, par exemple, bon, risquent d'être un peu perdus dans l'ensemble de cette production. Ce qui est le cas aussi pour Star Wars et pour Star Trek.
Oui, c'est ça. Il faut investir beaucoup de temps et d'énergie dans ces franchises-là pour justement avoir une vue d'ensemble. Puis, il y a aussi le fait, comme je disais plus tôt, c'est pas une franchise qui s'est étendue, en tout cas pour la majorité de son corpus, pendant que c'était la norme. Donc, il y a beaucoup du corpus, surtout en bande dessinée dans les années 90 et dans les jeux vidéo aussi parallèlement, où c'était pas mal juste des histoires qui venaient comme se greffer à l'univers sans avoir l'intention de poursuivre l'histoire de Ripley nécessairement. Donc, il y a comme une grosse, en fait, la vaste majorité du corpus de ces années-là, surtout, c'est juste des histoires qui viennent s'inscrire dans l'univers sans nécessairement créer des liens. Puis après, on voit plus tard que il y a comme une mouvance pour essayer de créer des liens entre des histoires préexistantes et des nouvelles histoires parce qu'on se fie sur le modèle de marché qui a été mis en place aujourd'hui, là. Donc,
Oui, parce que notamment, contrairement à Star Wars, où il y avait de façon tout à fait particulière d'ailleurs, parce que c'était pas totalement dans l'esprit de Lucas, de la façon de la généalogie de ses scénarios, comment ça s'est créé, c'est plutôt le fait qu'il avait d'abord créé une sorte d'univers et qu'ensuite il a décidé, donc, ce célèbre truc bizarre, de commencer par l'épisode donc au milieu de la saga au fond, dans l'idée que il se faisait déjà très clairement que c'était une histoire qui dans sa tête débordait complètement le cadre d'un simple film. C'était aussi un hommage au serial cinématographique des années 20 et 30 qui était repassé en boucle dans les années 50 à la télé, où lui et Spielberg les avaient vus, mais il y avait au moins une idée déjà d'emblée. Mais c'est clair qu'Alien, il n'y avait pas du tout cette idée.
Non.
C'est un film qui est parfaitement clos sur lui-même. Et au fond, ce que tu expliques bien, c'est que c'est presque là on est vraiment face à quelque chose d'un peu plus fortuit, c'est l'intérêt au fond que porte Cameron et qui avec donc Aliens au pluriel, qui ne se présente pas non plus comme Alien 2, comme ce serait genre les suites conventionnelles qu'il y a eu de Gremlins, de Jaws, etc. Là, ça se présente comme déjà une sorte de variation. Et finalement, ça, c'est probablement ça qui change le destin d'Alien. Le fait que du coup les gens se disent ouais bah, c'est pas mal de au fond on a une sorte de monstre archétypal qui peut s'adapter à
Ben oui, mais c'est aussi, c'est intéressant que tu le mentionnes comme ça parce que c'est vraiment quand on a une vue d'ensemble un peu de qu'est-ce qui s'est produit quand dans la franchise, c'est vraiment le film de Cameron en 1986 qui un peu amorce le départ de l'univers étendu parce que les bandes dessinées s'inspirent de ça, les jeux vidéo s'inspirent de ce film-là et non pas du premier film de 1979 de Ridley Scott, là. Donc il y a vraiment, c'est juste à partir du second film qu'on a cette mouvance-là, puis c'est vraiment ce qui est comme le Big Bang de la franchise. Aujourd'hui, on a plus l'impression que c'est le film de Ridley Scott qui a un peu parti le bal, mais à l'époque, ça l'était pas. C'était pas du tout le cas, là, en fait.
Oui, puis c'est au fond, tu le signales aussi, c'est une sorte de pas seulement de transfiction, au sens où on reprend un personnage, on le passe à une autre fiction, mais c'est aussi une sorte de changement, en tout cas un changement d'angle, non? Et ça, c'est un aspect très intéressant de ce que tu fais avec le parcours vraiment d'ensemble, c'est de voir qu'en réalité, à chaque fois, ce sont des angles et des sortes de sous-genres différents, parce que la grande différence aussi entre le premier, donc le Ridley Scott, et le deuxième, c'est que on passe d'un film qui est un peu un hybride entre l'horreur et la science-fiction, un peu comme The Thing de Carpenter, et on passe à un film qui est plutôt un film d'action avec des ingrédients de science-fiction et quelques ingrédients d'horreur. Mais déjà, il y a comme une sorte de... La façon dont est traitée l'action dans les deux films est très différente. Cette sorte d'emphase, d'ailleurs, sur les Marines, donc, qui est une
Oui.
sorte de militarisation de l'univers de Alien. Ce n'est pas du tout le type de personnage, d'ailleurs, du premier vaisseau, du Nostromo, qui eux, c'est vraiment un peu les prolos de l'espace, et c'est blue collar total. Là, c'est bon, là, on est dans un autre registre. Et
Ouais,
comme tu
puis
le dis, oui.
oh, définitivement aussi, le fait que cet univers-là s'est fait réapproprier au cinéma par des réalisateurs avec des visions très, très spécifiques aussi, là. Donc, James Cameron, David Fincher, puis Jean-Pierre Jeunet avec Alien Résurrection. C'est quand on étudie un peu la franchise dans le détail, là, donc quand on lit les comics, surtout dans les comics, parce que c'est là qu'il y a le plus de diversité de représentation, là, je trouve. On voit qu'il y a tous ces archétypes-là qui sont créés dans les bandes dessinées. Donc, on a les Marines avec le deuxième film. On a le prolétariat minier dans le film de Ridley Scott. Puis ensuite, David Fincher lui introduit l'idée de la prison, puis des criminels, puis tout ça. Puis avec Alien Resurrection, on a les scientifiques, la compagnie, puis tout cet univers-là très mercantile. Fait qu'on a un peu tous ces archétypes-là qui reviennent. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de nouveautés qui s'ajoutent, mais tous ces archétypes-là finissent par se transformer eux autres au fur et à mesure qu'ils sont adaptés dans d'autres médias.
Oui, et puis ça, c'est vraiment une singularité. Et je me demande un peu d'où elle vient. Enfin, qui a pu prendre la décision? Parce que c'est vraiment une décision de donner ça à des réalisateurs avec beaucoup de personnalité. Parce que c'est le contraire de ce qui se passait dans Star Wars quand Lucas a trouvé que c'était impossible de continuer à tout faire sans complètement être brûlé. Et que il a cherché des réalisateurs qui pourraient, au fond, donc il a donné un peu plus de liberté à Kasdan, et ce qui fait pour beaucoup de gens que le deuxième chronologique, donc The Empire Strikes Back, est considéré souvent comme le meilleur, parce qu'il y avait une vraie tension entre Lucas et un réalisateur. Et puis par contre, il n'a pas trouvé une belle expérience et il a décidé pour le retour des Jedi de prendre un réalisateur beaucoup plus facile ou en tout cas
Malléable,
malléable, exactement.
c'est ça.
Alors qu'avec Alien, c'est le choix contraire qui est fait. Et ça, je ne sais pas vraiment qui a fait le choix, parce que on dirait que c'est un peu quelque chose qui est arrivé encore une fois, de manière quelque peu fortuite.
Puis aussi, Fincher avait je pense que c'est son premier grand succès. Il avait pas fait tous les films pour lesquels on le connaît encore, là. Si je me trompe pas, peut-être que ça fait longtemps, là. Mais il me semble que c'était un des premiers.
Je pense que le plus grand risque, c'était Jeunet. C'est dans le sens que c'est clair que Jeunet, c'est une personnalité à part entière. Et que donc, ça, c'était vraiment un choix particulier. Ouais. Et en plus, très européen, pas du tout. C'est vrai qu'il venait de faire des films qui avaient eu beaucoup de succès. Mais bon, c'est ça. C'est singulier de voir que ça a été un peu une des marques d'identité de la franchise. De laisser les gens se réinventer. Puis même, c'est un peu ce qui est arrivé, pas au niveau tant du réalisateur, mais avec Alien versus Predator, l'idée de dire, bon, bah, pourquoi pas? Donc, cette idée d'expérimentation, disons, à partir de la figure. Et c'est peut-être parce qu'au fond, la figure est beaucoup moins close sur elle-même que peut l'être, par exemple, l'univers de Star Wars ou des choses comme ça.
Ouais, c'est ça, parce que c'est ça quand on a un univers qui est déjà pour la plupart construit, comme tu disais avec Lucas, qui avait vraiment son idée spécifique de qu'est-ce qu'il voulait faire avec cet univers-là. Alien, ça a toujours été une espèce de bricolage où le premier film s'est fait créé de peine et de misère, il y avait pas de réalisateur, il y avait un scénario un peu qui était pas très final. Puis la seule raison pourquoi ils ont décidé d'aller en production avec ce film-là, c'est parce que Star Wars avait eu tellement un gros succès en 1977 qu'en fait, ben il faut qu'on mise sur ce succès-là. Maintenant, les gens aiment les vaisseaux spatiaux puis les affaires dans l'espace. Puis le seul scénario qu'on a en notre possession, c'est cette affaire-là. Tout le reste,
Paradoxe.
c'est fait de façon similaire. C'est les réalisateurs qui ont fait, ah, mais moi, ça m'intéresse de poursuivre ça. Cameron qui a dit, moi, je veux continuer cette histoire-là à ma manière. Puis c'est tout un peu greffé, puis bricolage, puis pas organisé, là.
Oui, et d'ailleurs, dès le fondement, parce qu'un des aspects aussi assez fascinants du premier Alien, de ce point de vue-là, c'est que, comme le signale le célèbre documentaire sur le Dune de Jodorowsky, qui n'a jamais pu se faire, c'est à quel point, au fond, c'est à partir de l'échec du Dune de Jodorowsky et de l'équipe qui avait été réunie, comment c'est un peu une partie de cette équipe-là qui se retrouve à faire Alien. Donc là aussi, quelque chose d'assez intéressant, parce qu'au fond, c'était Dune de Jodorowsky, c'était l'anti-blockbuster, au sens où c'était l'idée de prendre tous les personnages les plus excentriques de l'histoire du cinéma avec Orson Welles, puis de la contre-culture avec les surréalismes d'Ali, etc. Enfin bon, c'était vraiment une sorte de melting pot de la science-fiction comme quelque chose de vraiment out there, là, très contre-culturel, comme c'était la science-fiction d'ailleurs dans les années 60-70. Et c'est un peu de ces quelque part un écho de ça, c'est très curieux qui est devenu Alien. Et donc là aussi la filiation dès le début, tu parles de bricolage et c'est vrai que c'est tout à fait l'impression que ça donne, c'est de dire bon bah voilà, on a ces gens-là, ils se sont déjà mis en contact, ils sont là, puis ils veulent faire quelque chose et Alien va sortir un peu comme une
Ouais,
sorte.
c'est ça. Puis il y a aussi de pas de vision préétablie nécessairement. Quand on regarde les premiers sketchs des designs pour le xénomorphe, qui n'avait pas encore ce nom-là, c'est dans le deuxième film que c'est arrivé, mais le xénomorphe, ça ressemblait pas du tout à ce que c'était. C'est parce que Giger est arrivé, puis en fait, ça, c'est le monstre que je veux faire. Pas. Initialement, c'était comme un dessin de gros bébés un peu gélatineux qui avait aucun rapport avec. Ça faisait très cinéma des science-fiction hollywoodiens des années 50, là, des espèces d'insectes géants. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a eu tous ces éléments-là qui sont hérités de la production manquée du Dune de Jodorowsky que c'est devenu qu'est-ce que c'était, mais il n'y avait pas. Puis je pense qu'il y a aussi, quand on regarde dans l'ensemble, puis c'est vraiment ça que j'essaie de faire dans le livre, c'est d'avoir une vue d'ensemble pour voir avec un peu de relatif recul, c'est quoi la différence entre cette époque-là de création? On voit que jusqu'aux années mi-90, ben jusqu'au film de Jeunet, il y a tout le temps comme une espèce de second souffle à chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui est introduit dans l'univers. Il y a toujours quelque chose qui n'était pas pensé en amont, mais qui finit en aval par influencer tout le reste de l'univers. Puis il y a tout le temps comme une espèce de renouveau dans les histoires, dans les représentations, dans les archétypes. Même si on est tout le temps comme des dominantes, là, nécessairement, il faut que ça reste un peu similaire. Et Là, il y a eu comme 10 ans dans les années 2000 où il n'y a pas grand-chose à part quelques romans, des jeux vidéo mobiles puis d'arcade. Mais quand ils ont voulu ramener la franchise avec le modèle plus instauré du transmédia comme on le connaît aujourd'hui, Ridley Scott a voulu commencer à faire ses films. Puis il y a comme plus de nouveau souffle, de nouveaux réalisateurs qui veulent s'intéresser à ça. C'est juste Ridley Scott qui finit par reprendre sa vision de la franchise puis qui l'impose un peu au reste. Puis là, on voit qu'il y a plus de difficultés à se renouveler, justement. Il y a plus cet aspect-là de bricolage parce que Ridley Scott est revenu à la franchise avec ses plans puis ses passions personnelles pour qu'est-ce que l'histoire de l'univers d'Alien devrait être. Donc, c'est peut-être comme une espèce de récit édifiant de comment on créait à l'époque, comment on crée aujourd'hui, puis est-ce que le modèle transmédia rigide, t'sais, on a la formule du succès, maintenant on va l'épuiser jusqu'à temps que les histoires s'essoufflent. Est-ce qu'il ne faudrait pas le repenser de manière un peu plus artisanale, comme on faisait avant, pour justement laisser l'espace sur cette créativité-là? Parce que même si c'est de la pop, puis c'est de la culture de masse, on veut quand même se faire surprendre, on ne veut pas toujours avoir la même histoire un peu plate, comme qui
Oui,
est arrivé avec Covenant.
ben c'est très intéressant. Enfin, la comparaison est toujours intéressante. Elle s'applique à toutes ces franchises qui se sont développées dans la longue durée, parce que même dans Star Wars, il y avait justement tout un aspect de tension entre un certain héritage contre-culturel et par ailleurs une sorte de célébration du grand spectacle hollywoodien. Mais au moins, il y avait une tension. Maintenant,
Allez, il y a eu
maintenant
ça, les films ont été décevants de Star Wars parce que c'était la même chose. L'épisode 7, l'épisode 4, c'est la même chose. Donc, ils ont été décevants. Mais on a d'autres trucs différents comme la série de Mandalorian
Oui, non,
qui te reprend, c'est ça.
qui se réinvente un peu ailleurs. Mais c'est vrai que le contexte et de création est devenu très, très différent. Dans le deuxième chapitre, justement, tu t'intéresses au premier Alien et tu fais une sorte d'exercice de, pourrait dire, de close reading, de lecture, spectature très, très détaillée et vraiment très intéressant par rapport à quelles sont les composantes initiales qui ont permis, au fond, que ça devienne un mythe. Parce que c'est aussi une des grandes questions. C'est, au fond, quand on voit ces choses-là, rétrospectivement, on a une sorte de familiarité qui fait que d'emblée, on dit, ah oui, c'est Alien, bon, c'est Alien. Mais qu'est-ce qui fait que ce film, qui quand même n'a pas non plus fait l'unanimité quand c'est sorti, comme d'ailleurs presque aucun film en réalité, mais surtout les films de l'imaginaire ont toujours traîné avec eux bon, un rapport qui n'est pas nécessairement pour tout le monde. Il y a un monde de fans, puis il y a un monde plus mainstream qui des fois s'intéresse à ces genres, des fois non. Donc les réactions sont souvent mitigées. C'était le cas pour Blade Runner aussi, c'était le cas pour beaucoup d'autres. Pour The Thing, qui a été vraiment massacré par la critique, par
C'est
exemple.
ça, avec le recul, maintenant, ça devient des films cultes, mais à
Oui, c'est
l'époque,
ça.
c'était pas.
Et donc, on est pris un peu dans une sorte de fausse impression de familiarité qui fait qu'on se dit, bah oui, bah, c'est normal que ça devienne. Mais ce n'est pas si évident. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que tu te poses justement la question, qu'est-ce qui, je te cite, donc qu'est-ce qui nous a poussé à vouloir répéter et compléter cette histoire? Et donc, dans le chapitre 2, tu t'intéresses à quelques points qui sont importants et qui ont pu vraiment stimuler l'imaginaire et provoquer cette envie, non, de revenir à cet univers. Ce qui n'est pas le cas pour quantité d'autres films, pourtant très bons aussi, mais bon, même The Thing, par exemple, The Thing n'a pas donné lieu, a donné lieu à quelques variantes, mais il n'a pas donné lieu à une franchise comme telle. Donc, parmi les éléments que tu relèves, donc, il y a le croisement entre la science-fiction et l'horreur, le gothique. Effectivement, c'est un des aspects qui n'était pas unique, qui n'était pas totalement radicalement révolutionnaire, mais qui a bien marché dans le premier Alien.
C'est ça, ça fonctionne bien aussi parce que ça prend. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est pas nécessairement une hybridation de genre nouvelle, mais Alien, surtout le film de Ridley Scott, prend les deux aspects de ces genres-là qui misent le plus sur la création justement du mystère puis la curiosité. Ce qui est aussi à l'origine de justement des mouvements de fans ou des mouvements de plus de culte, c'est aussi qui attire la transfiction, là, qui attire les mouvements transfictionnels. Donc, on laisse beaucoup, beaucoup de plans dans Alien, autant sur le plan de la forme, parce qu'il y a beaucoup, justement, au cinéma, on joue beaucoup dans Alien, on joue sur la vue parasitée, le fait qu'on ne voit pas tout le temps ce qui se passe. C'est un bon vecteur de suspense et d'horreur, mais c'est aussi une bonne manière de justement instaurer du mystère. Puis de l'autre côté, avec le gothique, aussi le fantastique, on comprend pas trop d'où vient cette créature-là. Elle nous apparaît un peu comme ça. Donc, ça joue beaucoup sur la création de blanc, puis de points aveugles qu'on cherche à vouloir combler, mais qu'on ne veut pas nécessairement combler au complet. Donc, il y a tout le temps cette relation-là un peu tendue entre attirer à soi des nouvelles histoires ou des histoires qui pourraient compléter ce récit-là, puis en donner un peu en retour, là. Donc, il y a aussi ce mouvement de va-et-vient-là, là. J'aime beaucoup l'expression de Henry Jenkins qui dit que à l'origine des grands mouvements de fans, c'est toujours une espèce d'ambiguïté entre deux émotions, donc la curiosité et la frustration. Donc, c'est toujours de là que part des mouvements de on veut essayer de créer des nouveaux récits pour s'insérer là-dedans. On veut essayer de compléter une histoire parce qu'on n'en nous a pas donné assez, on est frustré ou c'est une histoire qu'on juge comme étant incomplète ou inadéquate, mais en même temps, il y a assez de curiosité pour vouloir s'investir dedans ou il y a assez d'amour qui a été généré pour vouloir s'investir dedans. Je pense que Alien le faisait un peu, mais c'est aussi au fil des répétitions puis des nouveaux ajouts, on en rajoutait toujours un peu.
Oui, puis c'est très intéressant le lien entre l'horreur et l'aspect cognitif, parce qu'on a beaucoup, les théoriciens de l'horreur se sont beaucoup focalisés sur la peur, le sentiment de peur, le fait qu'il y a une sorte de, enfin, depuis le 18e siècle, et Burke et les théories du sublime, etc., l'idée qu'il y a un plaisir à être effrayé sans avoir de réel danger. Donc, on peut prendre juste l'émotion. Donc, ce qu'on dirait maintenant l'adrénaline, le adrenaline rush, et au fond, on n'a pas à payer le prix qui est vraiment le prix dans la vraie vie d'un signal d'alerte de celui
Parce que c'est la menace sur le corps, là,
Exact. Donc,
c'est
le fait qu'on peut parfaitement comme activer l'adrénaline, puis en même temps, on sait que c'est pas assez pour que on soit complètement ravagé par l'impression que quelqu'un essaye vraiment de nous tuer. Donc, on a beaucoup théorisé ça, mais en fait, moi, une des choses qui m'a toujours frappé et qui m'a toujours plu dans le fantastique et l'horreur classique, c'est justement le fait qu'il y a une tension cognitive et que ce n'est pas totalement éloigné. Et c'est pour ça qu'il y a eu des crossovers avec Sherlock Holmes, comme le chien de Baskerville, etc. C'est que ce n'est pas complètement éloigné du récit policier où on essaye de comprendre comment fonctionne le monstre. C'est ce qui fonctionne très bien avec Dracula, le roman, et les bonnes adaptations. C'est qu'on n'est pas juste dans le fait qu'on veut te faire peur et l'effet genre bouh. Bon, ça, il y a des gens qui carburent à ça, il y a des films qui fonctionnent comme ça, mais au fond, il y a plus dans la tradition. Plus classique, il y a le fait qu'on est en train de jouer entre la compréhension et l'incompréhension, comme tu viens de le signaler. Et ce qui fonctionne bien, tu le fais dans l'analyse, c'est que tu prends les éléments, donc déjà le nom, donc le titre, qui est très frappant parce que c'est une sorte de réduction, d'épuration totale de la menace, donc Alien.
Alien.
Et pendant longtemps, on n'a pas su comment l'appeler d'ailleurs. Tu fais le. Tu
Oui,
te
c'est ça. C'est au début du deuxième film qu'on mentionne le xénomorphe, là. Mais c'est en plus, c'est même pas son nom. C'était pour voyons, expliciter son mode de reproduction, là. Donc,
Oui, puis d'ailleurs,
ouais.
c'est comme Frankenstein, au sens que c'est pas Frankenstein, c'est que
Ouais.
il n'a pas de nom parce que ça n'existe pas, la nomination dans son monde. Donc, c'est des noms que nous, on peut bien s'amuser à lui donner, mais c'est clair que ce n'est pas le nom par lequel il se reconnaîtrait la créature. Tu analyses aussi, donc, au fond, et justement, là, tu viens de le dire pour Xenomorph, c'est beaucoup ce fonctionnement de la reproduction qui est devenu l'élément clé de cette créature. Et je pense que ça, c'est en soi très intéressant parce que, bon, évidemment, il y a toute la dimension gender studies, les analyses qui ont pu être faites du point de vue du féminisme, le monstrous féminin, le féminin monstrueux de Barbara Creed, etc., etc. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que c'est une façon un peu de réinventer le monstre, parce qu'effectivement, ce qui fait que Alien est un monstre archétypal, et que je pense que c'est pour ça que les gens reviennent à lui dans le sens de dire, bon, puisqu'il fonctionne bien, pourquoi inventer un autre monstre? Ce que certains films ont fait, bien évidemment, pour essayer
Essayer en tout cas.
de cash in. Mais en même temps, c'est l'idée de que, bon, c'est ça, c'est Alien, c'est comme l'extraterrestre, le truc qu'on ne comprend pas trop. Parce que ça dépasse notre, ça correspond pas à nos catégories. Et du coup, la reproduction,
L'altérité ultime, là,
ouais,
donc il n'y a
voilà.
absolument rien pour le décrire. Puis...
C'est ça. Et donc, au fond, on reconnaît sa sorte d'agressivité parce qu'on le reconnaît comme une sorte d'animal dangereux. Mais en même temps, ce qui est le plus inquiétant et bizarre, en tout cas, dès le premier film, c'est justement ce mode de reproduction qui fait que, du coup, c'est un monstre qui, contrairement à d'autres monstres qui sont juste là pour se faire exterminer à la fin du film, c'est un monstre qui nous confronte, et c'est là où vraiment il est alien, vraiment, il nous confronte en prenant, c'est les abeilles, je pense, non? Tu
Les
évoques
guêpes, c'est
les
les
guêpes.
guêpes de Darwin.
Exact, les guêpes de Darwin, en prenant ça, bah, ça lui donne comme une autre dimension. Il y a d'un côté la menace, mais du coup, cette menace, elle est au fond un peu associé au fait que c'est un monstre qui veut essentiellement se reproduire. Et donc, c'est assez curieux parce que c'est un peu à la même époque qu'il y a la théorie de Dawkins sur le gène égoïste et où il y a cette vision, une sorte de néo-darwinisme assez radical du fait que, au fond, les espèces, ce qu'elles veulent, c'est juste se propager le plus possible et dans une sorte d'aveuglement total. Donc, ça fait que
C'est des guerres totales de l'adaptation. Donc, le plus adapté, c'est celui qui va gagner la guerre au final. Puis, on pense qu'on l'est en tant qu'humain, mais maintenant, on se crée des monstres pour se rappeler qu'on ne l'est pas nécessairement, là, comme Alien.
Oui, et puis ça fait que la menace du monstre devient, d'un point de vue darwinien, bah, quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre, dans le sens que c'est pas. D'un côté, il hérite un peu du mal, dans le sens qu'évidemment, il hérite de toutes ces représentations du dragon et de créatures un peu maléfiques, mais au fond, c'est vraiment une sorte de fiction d'horreur darwinienne, où c'est tout simplement une créature qui essaye de se propager exactement comme toutes les autres créatures, de façon qui pour nous est horrifique. Et ça aussi, c'est intéressant parce que
Parce qu'on
tu
touche sur
analyses.
le body horror et tout, là, avec l'espèce de reproduction forcée, on est un autre maintenant, mais notre corps va être détruit dans le processus. Là, donc, il y a tout, justement, tu parlais de la maternité monstrueuse, mais c'est de grossesse abjecte là, qui est forcée, surtout sur des hommes, mais un peu plus tard, ouais, c'est sur les femmes. Là. Donc, il y avait toute cette idée-là aussi du body horror et de l'espèce d'instant traumatique de la scène du chestbuster là, qui sort du ventre puis qui est reproduite à vitam aeternam là, donc dans tout et n'importe quoi là.
Oui, tu l'analyses les deux. Donc, tu
Ouais.
analyses les trois étapes, donc l'œuf, le facehugger et le chestbuster, donc, qui sont tous des termes de fans, en fait. Je pense que c'est les fans mais qui montrent bien la polarisation autour de ces images. Et d'ailleurs, oui, le
C'est
body.
pas, ouais, mais c'est pas nécessairement les noms Chestbuster et Facehugger étaient dans le design original. C'est
Ah,
juste le xénomorphe qui était. Ouais, c'est ça,
OK.
parce qu'on a des extraits de notes de Dan O'Bannon, qui est
OK.
des co-scénaristes, là, donc qui dit, ah ouais, mais j'imagine un peu le monstre avec comme plusieurs cycles d'étapes de reproduction. Puis ces deux termes-là étaient initialement
Ils sont
décrits.
assez incroyables parce que facehugger, c'est vraiment un terme.
Ouais.
On ne sait pas si c'est vraiment un hug.
C'est
Mais
vraiment douillet comme terme pour comme l'opération qui
ouais.
se passe.
Exact. Et puis oui, le body horror, en fait, c'est un terme. Là, je ne sais plus, ça fait plusieurs fois que j'ai travaillé dessus, mais je pense que c'est en 81. Et justement, quand, je ne sais plus si c'est Phil Hardy, je ne sais plus le nom, mais l'auteur du terme, donc le créateur du terme de body horror, il était justement en train d'évoquer The Thing d'un côté, il évoquait, si je ne me trompe, Alien, et donc il retrouvait dans certains films ce qu'il appelait donc cette idée de l'horreur corporelle. Et en ça aussi, oui, le Alien a été un vecteur de changement, de mutation esthétique. Ça, c'est clair. Et c'est aussi peut-être une des manières d'expliquer le succès de la figure, c'est que c'était un vecteur de cette esthétique. Donc, à la fois du croisement qu'on signalait sur la science-fiction et le gothique, l'horreur, mais aussi un type spécifique d'horreur qui était nouveau et qui s'est clairement imprimé dans les imaginaires.
Ouais, il y a aussi le fait, c'est ça, il y a rien, il y a absolument rien, pris indépendamment les uns des autres, tous les aspects qui ont créé le xénomorphe sont pas nécessairement nouveau, mais si on s'arrête puis on regarde un peu toutes les inspirations de ce monstre-là, parce qu'il y a aussi un aspect très insectoïde à l'Alien, mais il y a toutes les œuvres de la Weird Science qui mettaient comme monstre principal une espèce de colonie d'insectes géants qui kidnappaient des humains puis qui faisaient des expériences sur eux. Donc, il y a cette filiation-là qui émerge. Donc,
Oui,
en plus de tout ce qu'on a dit,
oui.
là, ouais.
En fait, ce qu'on voit vraiment dans la fin des années 70, début des années 80, c'est que l'univers de Lovecraft, mais aussi des pulps, parce qu'il n'y avait pas juste Lovecraft, comme tu viens de le signaler, il y avait tout un courant qui était weird, donc c'était la weird tale, on ne savait pas trop, c'était un peu science-fiction, un peu horreur, quelque chose d'assez hybride déjà. Et au fond,
Qui était très aussi, qui était très darwinien, là, mais
oui,
c'était comme
oui.
l'espèce de anti-Darwin, donc l'espèce de d'évolution de les humains deviendront des insectes ou les insectes vont prendre le dessus, là. Il y a tout le temps aussi cet aspect-là qui ressort, là.
Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que les premières adaptations de ces univers-là dans les années 50, etc., comme le premier film de The Thing from Outer Space, au fond, on ne savait pas comment représenter ça, parce que ça relevait un peu de l'irréprésentable. Alors, ils en allaient vers le gigantisme. Là, oui, on voyait des crabes géants, des fourmis géants, des tarentules, tout ça. Mais, par exemple, l'aspect de la reproduction, etc., qui est parfois évoqué dans les scénarios, parce que ça vient de cet univers des années 20 et 30, mais ça restait un peu dans l'irréprésentable. Et ce qu'on voit avec Alien et The Thing, c'est que justement, cet univers-là, ben là, tout à coup, on le voit. Et dans les deux The Things, c'est très frappant, parce que le premier ne peut pas représenter la chose, puisque la chose est trop abjecte, au fond. Et donc, ça devient une sorte de monstre balourd, un peu à la Frankenstein. Et c'est l'aspect le plus faible, parce que par ailleurs, le film est très intéressant, le film des années 50, mais bon, le monstre, il est vraiment limite ridicule. Par contre, évidemment, dès qu'on se met à représenter une sorte de truc mutant qui prend toutes les formes et qui les mélange et tout ça, là, on a un type d'horreur
Ouais.
qui a été saisissant.
C'est ça, ça a toujours aussi été le défi du cinéma de représenter ces monstres-là, surtout les monstres très inspirés par Lovecraft ou juste carrément aller dans des adaptations cinématographiques de Lovecraft. Ça fonctionne en fait probablement jamais. Puis il y a beaucoup qui ont dit que Alien, c'était probablement le film le plus Lovecraftien qu'il y a eu, mais il y a aussi probablement ça qui a fait en sorte que Alien a tellement marqué l'imaginaire. C'est parce que c'était une de ses premières représentations visuelles-là, très cinématographique aussi, parce que quand on regarde le film Alien dans justement ça, toute sa matière cinématographique, le montage, l'usage du son, de la musique et de tout, comme carrément dans tout son aspect audiovisuel. C'est justement chaque aspect du film sert à mettre en place cet aspect abject-là, mais aussi cet aspect très Lovecraftien du monstre-là. Donc, je pense que c'est ça qui fait que c'est marquant, hein, parce qu'on a eu beaucoup d'œuvres littéraires ou parfois même en bande dessinée qui voulaient le faire, mais de le voir puis de le vivre comme en tant qu'expérience, c'est quelque chose qui est très marquant, qui fait que ça devient éventuellement une espèce d'incontournable dans le mythe, là.
Et c'est peut-être presque une loi, il faudrait revenir un jour là-dessus, faire un truc, mais c'est presque une loi que les seuls, en général, les adaptations réussies de Lovecraft prennent une distance avec Lovecraft. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme s'il faut sortir du cadre strict où lui l'a placé pour qu'on trouve des choses. Il y a un classique aussi des années 50, par exemple, qui s'appelle Night of the Demon, qui s'éloigne aussi par certains côtés, mais qui, d'un autre côté, c'est tout à fait Lovecraft. Donc, je pense que c'est le défi que ça présente pour l'image, c'est qu'il faut sortir de son cadre spécifique pour trouver quelque chose d'un peu similaire. Et c'est ce que
Ouais, c'est
Alien
ça.
réussit très bien, parce qu'au fond, Alien ne s'inscrit pas du tout dans la mythologie lovecraftienne, mais par contre, ce que ça transmet très bien, c'est cette sorte de l'horreur
cosmique, ouais. Ouais,
l'indifférence totale
ouais.
De ces créatures.
Ça me fait penser aussi, vu qu'on parle de cinéma, j'avais été voir The Color Out of Space. Ouais, c'est ça, il y a quelques années, quand on pouvait aller voir des films au cinéma. Puis j'avais été tellement déçue parce que j'avais comme une idée de comment c'est une de mes nouvelles préférées de Lovecraft. Puis là, je me demandais vraiment comment elle allait faire ça. Puis c'était un peu décevant visuellement.
Mais c'est curieux parce que l'autre film de Nicolas Cage, genre un an avant, le film un peu culte, je pense que c'est le nom, au fond, était là encore, en s'éloignant de Lovecraft, finalement, il y avait des aspects Lovecraftiens qui marchaient mieux dans Mandy. Il faudrait peut-être que je le revoie. C'est aussi peut-être parce que quand on ne s'attend pas à ce que ce soit du Lovecraft, il y a toujours quelque chose qui marche.
Ouais.
Quand on s'attend à ce que ce soit du Lovecraft, là, pour le coup, on se dit, finalement.
Ouais. Imaginez quelque chose comme, on peut jouer avec toute l'idée de la pellicule, au sens où c'est une couleur qui ne peut être représentée. On peut comme y aller carrément, on brûle la pellicule ou on joue sur le médium cinématographique, mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont été dans les jokes de Lama. C'était divertissant, mais c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais.
Et c'était très Nicolas Cage.
Ouais.
Par contre, l'adaptation, quelqu'un qui... On y reviendra parce qu'on aura quelques épisodes sur leur cadre, mais celui qui a vraiment réussi, moi, je trouve, d'un point de vue visuel, c'est les mangas de Gu Tanabe. Ça, franchement, ce qu'il a fait pour la couleur de l'espace et pour les montagnes hallucinées et The Mound, c'est moi, je pense que c'est un peu la voie à suivre. Guillermo del Toro, si tu nous entends, pour ton projet des montagnes hallucinées, il faut absolument partir de Tanabe, parce que c'est la voie à suivre. Mais donc pour revenir à tes analyses, donc après ce chapitre où tu analyses très en détail donc ces grandes figures, dans le troisième, tu t'intéresses justement aux différents films, à ce qui les différencie, comment à chaque fois c'est un peu un nouveau, comme tu viens de le dire, c'est un nouveau départ. Et toi, ce serait quoi tes préférés finalement, si tu avais à faire la liste
de mes films préférés?
Ouais, la liste des aliens, tu sais, ils font toujours ça sur Internet. Mais
ouais, c'est ça. Grosso
modo.
Ouais, évidemment, c'est mon film préféré, c'est pas très original, mais c'est le film de 1979, là, donc le premier, évidemment, c'est dur à abattre. Mais mon deuxième préféré, c'est peut-être un choix un peu polémique, mais c'est Alien Résurrection pour l'humour très noir, mais aussi toutes les représentations super étranges de justement ces hybridations-là entre l'héroïne, Ellen Ripley et sa némésis, donc parce que tu sais, ça meurt dans le troisième, donc on essaie de la recloner, puis toute la scène à la fin où elle voit toutes ces espèces de clones manqués qui sont comme tout en train de fondre parce qu'elle met le feu, là. Donc c'est super étrange, mais c'est vraiment bien.
Oui, puis c'est bizarre parce qu'au fond, c'est un film un peu no man's land, parce que les gens qui aiment Alien sont un peu, ils ne sont pas nécessairement enthousiastes, mais inversement, les gens qui aiment Jean-Pierre Jeunet sont pas nécessairement enthousiastes non plus.
Non, c'est ça.
C'est très curieux, mais moi aussi, je trouve que... Et puis justement, quand on aime les deux, quand on aime Alien et Jean-Pierre Jeunet, c'est quand même un grand plaisir de voir
ce film. Mais il y a aussi le fait, c'est ça, parce que le film est arrivé un peu quand les histoires de la franchise étaient en train de s'essouffler complètement, là, surtout en comics. Là, quand on lit les comics qui sortent à peu près au même moment, là, c'est vraiment pas bon, là, c'est pas très original. Puis on voit qu'il essaie juste de faire de l'argent avec une franchise qui est un peu mourante, si on veut, en guillemets. Mais le film a donné lieu à des romans qui sont sortis dans les années 2000, qui sont très intéressants d'un point de vue à la fois thématique, parce qu'on poursuit l'histoire de Ripley hybride et l'androïde dont j'ai complètement oublié le nom, puis toutes ces choses-là. Et aussi l'histoire de la compagnie, donc, qui a un peu rendu la population de la Terre complètement amnésique, puis qui essaie de recacher les secrets. Donc, il y a toutes ces histoires-là en roman que peu de personnes ont nécessairement lu. Là. Donc, ça a donné justement un espèce de précédent très intéressant à ce niveau-là, mais que c'était en train de mourir à cette époque-là. Donc, je comprends aussi que ça n'a peut-être pas autant levé que ça l'aurait dû.
Et ton troisième après Résurrection?
C'est le premier Alien versus Predator.
Oui, mais en fait, tu m'as donné envie de le revoir. Je pense que je ne l'avais pas vu dans le bon state of mind.
Mais c'est très amusant. C'est pas un excellent film, mais c'est très amusant. Puis on
C'est très
parlait de.
lovecraftien, là, pour le coup,
Oui,
et
mais
tu évoques à un moment donné le lien avec les montagnes
c'est presque
de
c'est le même scénario, là, c'est
Mind.
ça. C'est le squelette du scénario est à peu près le même, là, si
Oui,
on veut, là.
une base dans l'Antarctique où
Ouais.
il y a un premier monstre et ensuite il y a comme un autre monstre. Et puis
Puis
on voit les
ils
fresques. Il y a cet aspect où on voit les fresques qui racontent l'histoire des Predators. Oui, non, il y avait un côté. Le croisement des mondes était stimulant. Et au fond, pourquoi pas? C'était deux sortes de darwiniens et de survivalistes darwiniens de l'espace. Donc, quelque part, ça semble logique. C'est vrai qu'à l'époque, ça semblait comme un truc genre, oh, c'est pas possible. C'est un peu
Ouais.
comme tous les trucs dans les années 30, Dracula contre Wolfman et contre
Sherlock Holmes
Frankenstein.
contre Dracula, ouais, c'est ça.
Godzilla King Kong qui revient d'ailleurs au cinéma.
Ben
Mais donc ouais, ça faisait un peu ça le Monster Mash,
ouais.
mais
Et pourtant, ça faisait depuis 1989 qu'il y avait eu ces croisements-là, parce que c'est sorti dans les bandes dessinées presque aussitôt que voyons, Aliens et Predator sont sortis. Après, quelques années plus tard, on a eu déjà Alien versus Predator, qui, soit dit en passant, c'est probablement le meilleur comics de toute la franchise au complet, là. C'est excellent.
Je me le suis procuré, mais j'ai pas encore lu. Mais oui, ça m'a donné envie aussi avec les comics. Les comics, c'est au chapitre 4. Donc, si tu veux, on finit ton palmarès, donc après Alien et Predator. Donc,
Après, j'irai. Ouais, je suis pas une fan de Aliens, pour vrai. J'ai réécouté en plus récemment, là. Donc, j'irai Alien 3, puis Aliens ensuite, mais proche.
les nouveaux Predator,
Ouais.
Prometheus et tout ça,
Ouais, non.
Mais vraiment en bas de la liste.
C'était. Ouais, c'est ça. Après, j'irai Prometheus, Covenant, je les mettrais ensemble parce que l'histoire de Prometheus était un peu plus intéressante, mais Covenant était plus beau visuellement.
C'est
Ouais.
vraiment dommage qu'ils n'aient pas réussi la formule entre les
Ouais, mais c'est magnifique, ce film-là. C'était. Wow. Puis à la fin, j'irai avec le deuxième Alien versus Predator, le
Apparemment,
Requiem.
ouais. Apparemment, c'est un skinker, comme on dit. Ça, j'ai pas, ça, j'ai
C'était
pas, je me suis pas avancé jusque-là dans mon alienophilie ou alienomanie.
ouais, avec le prêt d'Alien qui fait son apparition au cinéma, mais c'est pas bon.
Mais c'est ça. Donc voilà, tu analyses évidemment les liens entre ces films qui chacun apporte une esthétique. Et puis comme tu viens de le signaler, ce qui est plus surprenant pour les gens qui connaissent juste la version cinéma, au chapitre 4, tu commences à analyser les extensions donc transmédiatiques. Et il y a le monde des comics où effectivement il y a comme une très longue tradition qui s'est créé et qui a créé comme une sorte de voie parallèle, non, à la continuité des films.
Oui, c'est ça. À la suite de Aliens, il y a eu une série qui a poursuivi le récit de Hicks et Newt. Donc, le Hicks, le militaire, et Newt, la petite fille qu'ils trouvent dans la colonie. Puis, on les voit adultes qui ont des difficultés avec le trauma et la santé mentale, notamment, qui est comme très présent. Et toute l'idée du cauchemar aussi, qui est très présente dans la série. Puis,
Comme chez Lovecraft, d'ailleurs.
oui, c'est ça. Puis, qu'on reprend beaucoup dans les romans plus tard aussi. Donc, c'est comme une filiation thématique entre les œuvres dérivées qui font pas nécessairement partie de la franchise principale, là. Mais c'est vraiment ce fil-là thématique qui revient. Donc, dans cette série de comics-là, donc on a leur histoire et éventuellement, les xénomorphes arrivent sur la Terre est détruite. Puis c'est ça, récemment, ils ont annoncé la série télé en disant qu'il y allait avoir des xénomorphes sur la Terre. Puis
Ben,
je me
moi,
demandais.
ça a été un fantasme vraiment depuis le début de la saga. C'était de me dire, est-ce qu'ils vont arriver à, parce que bon, c'est l'autre grand trope
Ouais.
des extraterrestres, c'est l'invasion.
Il arrive sur la Terre quand même assez récemment dans la franchise, c'est juste dans les comics, fait qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Et
C'est ça, ouais.
aussi le fait que, ben c'est ça, spoiler alert, au début du troisième film, X et Newt meurent, comme carrément au début, donc ils ont été obligés de retcon, donc de republier les comics qui ont sorti avant, qui leur avaient donné toute une longue vie riche en aventures. C'est fini, on change les noms, puis ça fait la job.
Oui, c'est
Donc,
drôle. Moi, ça
ouais.
me fascine parce que c'est pareil avec Star Wars, tout ça. C'est en même temps, si tu te dis, mais quel est le problème? On est dans un monde de fiction. Quel est le problème des deux versions qui se contredisent? En soi, ce n'est pas un
Ça.
problème. C'est marrant qu'on veuille absolument,
La cohérence.
ouais, la cohérence en transmédiatique et tout ça. C'est assez particulier, oui.
C'est ça. Puis, donc, c'est ça. Ça montre aussi, parce que contrairement au chapitre 2 où je fais vraiment du close reading, avec les comics, j'ai pas le choix d'un peu de prendre le regard un peu plus éloigné pour voir c'est quoi les dynamiques de création qui sont là. Puis là, on voit vraiment qu'il y a une hégémonie médiatique, là, au sens où le cinéma dicte qu'est-ce qui se passe dans les autres médias, là. Donc, si David Fincher a décidé que X et Newt mouraient au début, ben maintenant tout le reste de la franchise doit suivre au pas. C'est ça qui arrive dans Résurrection aussi, parce que dans Résurrection, il y a plus personne ne sait c'est quoi des aliens, mais dans les comics, la Terre au complet a été envahie par les xénomorphes. Donc il a fallu qu'ils créent une espèce de justification éditoriale là, ils appelaient ça The Big Deletion. Puis là, c'est ça, c'est la compagnie qui a effacé la mémoire de tout le monde. D'une manière ou d'une autre.
C'est
C'est
bizarre parce que ça ressemble un peu à un truc à la Matrix, mais je ne sais pas
ça.
si on en fait un truc à la Matrix, du genre que le monde est envahi réellement par les aliens, mais les gens pensent
Non.
oui.
Mais il y a plein de trucs super étranges. Il y a comme des cultes qui
Non, c'est
apparaissent, là, qui vénèrent la reine parce qu'il y a comme une espèce de.
Lovecraftien aussi, c'est
Ouais,
les
c'est
cultes de
ça.
la Cthulhu et
Puis il y
tout.
a tout un truc de mind control, là, où il y a espèce de la reine a une espèce d'onde télépathique. Puis là, maintenant, c'est pour ça qu'il y a des cultes. Puis là, il y a des sacrifices qui sont donnés très Lovecraftien. Il y a plein de trucs très étranges dans cette série.
Oui, tu cites des trucs assez curieux. Donc, les xénomorphes aquatiques, cool.
Ouais.
Le xénotyrannosaure, cool aussi,
Ah, ça,
inévitable.
c'est dans Alien Batman.
Ouais, ça a l'air assez.
Ouais.
D'ailleurs,
C'est très bon.
c'est quoi, oui, c'est ça, pour ton best-of pour les comics, ce serait quoi?
Dans les comics, mais il y en a beaucoup que j'ai mis dans les listes de lecture du livre à la fin, là. Donc que j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de cibler ceux que j'aimais un peu plus, là. Mais c'est ça, le Alien versus Predator, le premier qui est vraiment très très bon. C'est ça, Aliens Rogue, Aliens Labyrinth, Aliens. Ça, c'est comme un peu dans la série, il y a eu plusieurs numéros consécutifs. Des fois, il y a des liens entre eux, des fois, il y en a un peu moins, là. Mais donc, dans toutes les versions où il y a des mutations intéressantes, c'est dans Aliens Rogue, on a les aliens aquatiques. Il y a aussi, je me souviens plus exactement c'est dans lequel, mais à un moment donné, il y a aussi des modifications génétiques pour créer un roi alien au lieu d'une
Oui,
reine.
ça, je pense
Donc,
que je l'ai
ouais.
ici. Je pense que les aquatiques, c'est Aliens Colonial
Ah
Marines.
oui, c'est vrai, t'as
Et
raison.
le roi modifié
C'est dans
génétiquement,
Rogue.
c'est Rogue, oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Aliens Music of the Spheres, où il y a un. C'est un compositeur qui essaie de créer de la musique qu'on n'a jamais entendue avant. Puis il décide d'essayer de kidnapper des xénomorphes pour les enregistrer, puis les mettre dans sa symphonie. Puis là, évidemment, ça vire mal, là.
Il y a un truc, une nouvelle Lovecraftienne aussi sur un
Ouais.
musicien et la musique des grands anciens et tout ça. Ouais. Non, c'est clair que c'est marrant parce que c'est comme un truc qui clairement suit les auteurs de Alien, c'est cette sorte de connexion un peu souterraine avec Lovecraft. Et le Batman Aliens, qu'est-ce que.
Le Batman Alien est vraiment très bien. Il y a beaucoup de crossovers comme ça qui sont pas très bons, mais les Batman Aliens 2, donc
Et
ça va être
comment ça se fait? C'est-à-dire
que
comment Batman se retrouve avec les aliens? C'est genre ils ont envahi la Terre, ils ont envahi Gotham
Non,
aussi.
c'est ça, il y a comme un moment donné, il se ramasse, si je me souviens bien, ça commence à faire longtemps, là, mais il se ramasse dans une espèce de jungle pour aller, je sais pas, chercher quoi. Puis là, il découvre qu'il y a un nid d'aliens, puis là, il fait ses trucs de Batman avec ses gadgets et tout pour essayer de s'en sortir et aussi de détruire le nid, là. Donc, c'est très, très régulier. Un que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est le crossover Aliens Vampirella. Donc, avec les Nosferatu, puis. Plus espèce de xénomorphe Nosferatu, c'est super
Oui, parce
creepy.
que Vampirella est une extraterrestre aussi, c'est
Ouais.
assez curieux.
Ça se passe sur la Lune, je pense, quelque chose comme ça.
C'est
Donc.
cool. Et donc, au cinquième chapitre, tu passes aux jeux vidéo, du coup, où effectivement, tu évoques donc comment les. Et là, par contre, on dirait que le jeu vidéo, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment revenir à Ridley Scott. et à créer cette atmosphère, non, quelque part.
Ouais, c'est surtout, c'est ça, je concentre beaucoup le chapitre sur le jeu Alien Isolation, qui est de 2014, mais c'est ça, avant Alien Isolation, il y avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux vidéo, c'est beaucoup de jeux d'arcade aussi, où ce que le principe, c'était souvent de tuer des extraterrestres avec des guns. C'est
Plus
très,
aliens, ouais, c'est ça.
c'est
Plus
ça,
l'objet.
très, très marine. Il y avait eu les Alien versus Predator, les jeux dans les années 2000, qui étaient bien aussi, où on pouvait incarner soit un humain, un prédateur ou un xénomorphe, puis la vue changeait en fonction aussi de tout ça. Mais c'est ça, Alien Isolation, qui n'est pas un Aliens, mais qui est un Alien. Elle veut vraiment faire retour justement à Ridley Scott, mais aux histoires de Alien, parce que ça se situe, c'est ça, entre le premier et le deuxième film. Donc, c'est l'histoire de la fille de Ellen Ripley, Amanda Ripley, qui essaie de retrouver sa mère qui a disparu depuis je ne sais plus combien d'années. Puis, à ce moment-là, on veut vraiment revenir non seulement aux thématiques, mais à l'atmosphère. Puis, j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est une adaptation très réussie d'un point de vue transmédia, parce que le jeu vidéo se réapproprie de manière très sémiotique, là, donc tous les aspects thématiques qu'on avait vues au cinéma avec Aliens, qui créaient beaucoup de tensions, d'horreur, de suspense, puis les réadaptent, mais dans un environnement vidéoludique. Donc, au sens où, c'est ça, on peut se promener c'est une station orbitale, le Sébastopol, donc on se promène dedans, mais il y a beaucoup de jeux sur le son, où on entend des sons, des espèces de cliquetis, on ne sait pas trop si c'est les machines ou si c'est un extraterrestre qui arrive. Donc, il y a beaucoup de cet aspect-là très interactif avec l'environnement, où on découvre les histoires un peu en lisant ou en entendant des cassettes par-ci par-là. Très survival horror aussi, là. Donc, c'est très classique survival horror de ce point de vue-là. Mais il y a aussi tout l'aspect interactif avec l'intelligence artificielle qu'ils ont créé pour le xénomorphe, où il est attiré par le bruit et la quantité de bruit qu'on fait dans l'environnement. Puis ce type d'intelligence artificielle-là a été repris ensuite à de nombreuses reprises dans d'autres jeux, mais c'était comme il l'avait créé un peu pour ça aussi. Donc il y a un aspect très aléatoire, très surprenant qui émerge dans ce type d'interaction-là avec le monstre dans un jeu vidéo, parce qu'habituellement, ce qu'on avait, c'était on arrive à tel endroit, il y a un monstre dans la pièce, on le tue. Si on meurt, quand on revient, il va être encore à la même place, alors que là, ça ne sera pas nécessairement la même chose. Donc, il y a tous ces aspects-là qui se construisent de manière à recréer ce sentiment-là d'horreur quasi cosmique, mais en utilisant le programme informatique du jeu vidéo. Et le dernier aspect qui s'est ajouté un peu à tout ça pour créer vraiment l'angoisse, c'est l'idée de d'usage des technologies similaires à celles qu'il y avait dans le film à l'époque. Donc, une technologie assez lente, assez analogique quasiment, là. Donc, on a les cartes qu'on rentre dans les machines et tout. Puis, un de ces usages-là, c'est le poste de sauvegarde non automatique. Donc, au sens où d'habitude, souvent, on a les sauvegardes. Oh, tu t'en vas dans un endroit où il y a un monstre, là, c'est un petit truc qui spin pour te dire que tu es en train de sauvegarder. Là, non, là, on a mis des postes un peu partout, il n'y en a pas beaucoup. Puis, si tu meurs avant d'arriver au poste, tu perds toute ta
On
progression.
meurt souvent, en fait, c'est ça.
Oui.
Ça ne pourrait pas être autrement. Il n'y a pas le sentiment de
On peut pas
overcoming.
vraiment. C'est
Ouais, il n'y a pas
ça.
le sentiment de supériorité sur le monstre comme on peut avoir une fois, comme sur les zombies dans
Non, non,
Resident
non, on n'a pas les
Evil.
gros guns non plus comme dans Aliens, là. On a soit des petits pistolets. À un moment donné, on peut avoir un lance-flammes ou des grenades, mais souvent, ça sert juste à le faire s'en aller, puis pour qu'on puisse se cacher puis essayer de
Oui, c'est
passer.
vraiment l'identification avec une proie. Hein. C'est vraiment ça qui est assez. Alors que souvent, le first-person shooter est plutôt du côté de celui qui tient une sorte de contrôle.
Très, très doom, là. On arrive avec les guns puis on tue des démons, là. Non,
Là, c'est les démons qui nous
qui nous
massacrent.
poursuit. Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs, intéressant aussi la manière dont tu procèdes, donc, dans le célèbre débat, querelle entre ludologue, narratologue. Au fond, tu montres ce qui est un peu nécessaire, non? C'est l'idée de voir un peu l'interaction entre les deux aspects et ne pas se cantonner ni à l'un ni à l'autre.
Dans le contexte aussi d'une étude sur la narration transmédiatique, on n'a pas le choix d'aller là parce que justement, c'est autant un que l'autre qui m'intéressait. C'est autant comment on fait l'histoire, comment on crée une histoire dans un environnement interactif, mais aussi comment cette histoire-là s'adapte justement, comment certains aspects formels de ces histoires-là qui sont propres à d'autres médias finissent par s'adapter dans ce média-là. Donc, Non, j'avais pas le choix, là.
Non, et je pense que ça illustre bien la nécessité des deux, puisque ce qu'on vient de dire, le fait que c'est justement alien, ça ne peut pas être Doom. C'est-à-dire que puisque c'est alien et que c'est, on est dans la mythologie narrative de ce monstre, le joueur comprend, le pacte un peu de jeu, c'est que tu comprends que ce rapport, il ne fonctionnerait pas avec un autre type de monstre, par exemple. C'est que chaque univers de fiction, il crée un peu des possibles narratifs. Et donc, même si on n'est pas en train de suivre une histoire au sens classique, ce qui est un peu emmerde les ludologues, mais ce n'est pas l'idée qu'on est en train de suivre un itinéraire purement narratif, mais c'est qu'on est dans un univers de possibles narratifs qui n'est pas n'importe lequel. Et donc, c'est ça qui, de toute façon, conditionne ces reprises. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les jeux, évidemment. Mais donc, le chapitre 6, lui, s'attaque à un aspect encore moins connu du grand public, qui est la littérature. Et donc, je te cite, « OVNI dans leur propre franchise, délaissés le plus souvent, mais opérant des déplacements de points de vue surprenants, les œuvres littéraires nous font pénétrer la psyché des personnages, vivre leur traumatisme à leur côté, imaginer leurs sensations corporelles et entrer dans leurs rêves ou plutôt dans leurs cauchemars. Ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi rêvent les xénomorphes ?» Et donc, c'est aussi un chapitre très fascinant pour ceux qui connaissent juste le cinéma ou qui ne connaîtraient que les jeux. Et là, tout à coup, c'est de dire bon, ben voilà. Et c'est d'ailleurs une des grandes questions aussi que tu te poses, c'est la question de la transmédiagénie, c'est-à-dire la capacité donc de certains récits de survivre à leur transposition, et aussi la manière dont chaque transposition remédialise et donc doit s'adapter. Et effectivement, le littéraire pose entre le jeu vidéo et la littérature, justement, le fait que les deux chapitres se suivent, on voit bien que les enjeux sont complètement différents. Et là, pour le coup, parce qu'on est dans un truc qui est essentiellement narratif. Et que, là,
ouais, et que pour la première fois aussi, on n'a pas d'image qui vient supporter l'histoire. Là.
Oui.
Mais je pense que c'est mon aspect préféré, la franchise. Puis pas parce que j'ai fait des études littéraires, là, mais c'est surtout parce qu'il y a des trucs tellement étranges et parce que le roman a cette capacité-là de aussi cette liberté-là de créer des situations qu'on verrait pas nulle part, notamment, je mélange tout le temps les trois, là, mais dans un des romans qui sont sortis en 2014, on peut entendre les pensées des xénomorphes, ou du moins une espèce de verbalisation approximative de qu'est-ce qu'ils pourraient être en train de penser, parce qu'il y a un personnage qui a cette capacité-là, une espèce d'empathie, qui peut comme comprendre les sensations, puis qui peut les traduire en mots pour nous. Donc, ça, on pourrait le faire au cinéma, mais ça n'aurait peut-être pas le même impact que ça a dans le roman. Donc, il y a tous ces jeux-là aussi sur l'obscurité, puisque dans le roman, on n'a pas l'image, mais on peut jouer sur le fait qu'on n'est pas en train de regarder quelque chose pour jouer sur des subversions qui sont plus visuelles. Là. Donc, ce que Chuck Palahniuk avait fait avec Fight Club, quand on a voulu le transposer au cinéma, c'était un peu difficile parce qu'il fallait avoir deux personnages sans dévoiler le punch, si on veut. Là. Donc, le roman peut faire la même chose avec le Alien. Comme dans le Alien No Exit de Brian Levinson, il y a tout ce jeu-là sur espèce d'extraterrestre imposteur. Mais si on voit les images, on peut s'en rendre compte rapidement, alors que là, ici, on se fie au regard du personnage principal pour juger de ces ressemblances-là avec les aliens, mais aussi qu'il y a des différences qui sont... Donc, on joue beaucoup sur le mystère, puis espèce d'obscurité de la matière littéraire, là, si je peux l'appeler comme ça. Là.
Oui, moi, c'est le seul que je connaissais d'avance, et je pense que c'est quand même le plus intéressant, non, le Alien No Exit de Evanson.
Est vraiment très bien. Mais c'est ça, les trois autres livres dont je parle un peu plus vers la fin du chapitre sont aussi très intéressants pour des raisons très différentes. Là. Je pense que c'est Alien River of Pain qui opère une réécriture totale de Aliens, mais aussi des événements qui ont précédé Aliens. Donc, on a une espèce de rentrée dans leur quotidien, dans la colonie, puis un peu comment tout ça s'est déconstruit. C'est pas nécessairement une histoire nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de comics ou de réécritures un peu plus faniques qui avaient fait l'exercice. Mais là, c'était le premier exercice de longue haleine de réécrire cette histoire-là d'une nouvelle manière. Donc, il y a comme Il y a ça aussi. Puis un autre des romans, je suis vraiment désolée, j'ai mélange tout le temps les trois. Il y en a un où
Oui, parce
c'est
qu'en plus, ils
carrément.
sont parus au même moment, non? C'est assez
Ouais, dans
singulier.
la même année. Ouais, c'est ça. Puis c'était les premiers aussi, après le Brian Evanson, c'est les premiers qui avaient le titre Alien et non pas Aliens dans la série des romans. Donc il y avait aussi. Puis il y a aussi l'autre opération qui est carrément un peu farfelu, là, mais d'espèce d'interpolation transfictionnelle où il y a une espèce d'histoire de replay qui se passe entre le moment où elle s'endort dans la capsule à la fin de Alien, mais avant qu'on la retrouve dans Aliens, donc espèce d'aventure entre les
Intermédiaire.
deux. Ouais, c'est ça qui se passe, mais là, oh, soudainement, à la fin, le trauma, ça pourrait la tuer, donc on va juste effacer sa mémoire. Effacer la mémoire, c'est comme si c'est une bonne opération éditoriale pour, pour régler les
Mini-black,
problèmes.
c'est vraiment le mini-black. Mais
Ouais, avec le petit crayon, hein.
ouais. Et tu évoques aussi, bien que pas dans cette section-là, plutôt dans la conclusion, mais tu évoques le livre assez singulier aussi de Olivia Rosenthal.
Oui.
Donc, aliens, toutes les femmes sont des aliens. Donc,
Oui, c'est ça, mais quand j'avais écrit mon mémoire initialement, je n'avais pas lu le livre. C'est surtout parce qu'il est sorti presque au moment où ce que je terminais ma rédaction. Mais c'est ça, j'ai essayé de l'avoir un peu toujours en parallèle avec moi parce qu'il y a une citation de son livre qui est presque au début de chacun des chapitres, qui est un exercice en fait très singulier, mais aussi un point de vue très singulier sur la franchise, parce qu'elle, comme elle a dit dans son essai littéraire, là, non, essai de création aussi, elle était là quand les films ont été au cinéma. Moi, j'étais pas là. Moi, je suis arrivée dans la franchise, et presque tout était déjà sorti. Donc, on a comme une espèce de point d'entrée qui est très différent dans la franchise, donc qui conditionne aussi deux lectures différentes et deux rapports au temps différents parce qu'elle a fallu qu'elle attende entre chacun des films qu'elle n'a pas lu les bandes dessinées non plus et n'a pas joué aux jeux vidéo. Donc, je voulais aussi mettre de l'avant ces différences-là de parcours puis comment ça pouvait transformer notre point de vue sur la franchise.
Et
Puis,
puis,
ouais.
c'est moins un essai, enfin, si je comprends bien, c'est moins une étude que une sorte de réflexion, un peu comme ce qui s'écrit beaucoup en ce moment. Il y a eu plusieurs livres qui racontent des expériences de visionnement et qui mélangent un peu comme autofiction, puis
Ouais, exactement.
tout ça. Donc, on est plus donc dans un terrain hybride entre la fiction, l'essai et
Autofiction, ouais.
ouais, et donc, c'est assez curieux le fait que même quelque chose comme Alien a pu aussi donner lieu dans ces métamorphoses toujours surprenantes à une sorte d'autofiction française. Donc là, c'est un peu, on est, je pense que le premier surpris eût été Ridley Scott.
C'est ça.
Il aurait peut-être pu imaginer Predator, mais il aurait probablement pu imaginer Olivia
Je
Rosenthal.
sais pas s'il l'a lu, hein, c'est ce qui a été traduit en anglais.
Oui, c'est ça,
Très spécial.
c'est assez super. Donc, voilà, je pense que vous l'aurez compris, donc, pour les auditeurs et auditrices, que, bon, si vous aimez Alien, c'est vraiment un livre incontournable. D'ailleurs, je pense qu'en français, ça comble une lacune. Je pense qu'il y avait très peu d'études. C'est sûr que dans le monde anglo-saxon, tu cites plusieurs textes. Mais je dirais aussi que c'est pas, enfin, que c'est pas uniquement si vous êtes fan d'Alien. Je pense que c'est un livre extrêmement intéressant pour tous ceux qui s'intéressent plus concrètement aux franchises et à la façon dont les franchises culturelles fonctionnent. Et puis éventuellement, comme c'est un sujet tellement cardinal par rapport à la pop culture, je dirais que c'est un livre qui intéresse tous les gens qui s'intéresse à la pop culture en général, et de voir aussi une façon, une manière d'analyse qui est assez, au fond, pluridisciplinaire, parce que, non seulement parce qu'on travaille sur différents domaines, bande dessinée, jeux vidéo, etc., mais aussi parce qu'il y a un peu l'aspect de l'histoire économique de ces créations. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Et là, Mégane, donc, tu prépares ta thèse sur un sujet, quelque part, un peu, un angle un peu différent, donc.
Oui, c'est ça. Un angle un peu différent qui est comme à peu près absent du livre et de ce que je faisais avant. Donc, ben, pour mes recherches doctorales, je m'intéresse un peu plus aux communautés de fans, mais aussi de espèce de rapport identitaire qui se crée entre moi, le texte et ma communauté. Donc, espèce de d'inclure un peu plus cet aspect-là humain et expérientiel qui m'intéressait quand je m'intéressais aux franchises nécessairement, mais que j'ai jamais vraiment pris le temps d'aborder. Donc, ça serait en ligne un peu plus là-dessus.
Oui,
Ça
parce qu'à
se.
un moment donné, tu évoques que tu travailleras pas les fanfictions de Alien. Est-ce que tu vas le faire pour la thèse, du coup, de
Pas de Alien,
Anne?
mais je vais pas aller non plus dans les fanfictions, c'est pas un aspect qui m'intéresse, là. Donc c'est vraiment plus l'aspect identitaire, mais aussi politique qui vient avec tout ça. Donc tous ces rapports-là entre c'est ça, la montée de la culture pop comme espèce de surtout culture de masse dominante aujourd'hui. Donc c'est maintenant que Star Wars, Marvel, Alien et compagnie deviennent une espèce de tête d'affiche. Principal, il domine carrément le marché, surtout le marché du cinéma. On voit qu'il y a beaucoup de transformations de nos modes de communication qui ne sont pas nécessairement associés au fandom, mais juste la manière dont on communique aujourd'hui et on interagit avec la culture est influencée par la culture participative et aussi de l'autre pendant plus difficile à évaluer. C'est tout le backlash politique et culturel qui arrive souvent quand on essaie de toucher à ces univers-là. Donc, espèce de gatekeeper, il faut que Star Wars reste toujours pareil, ou il faut que Marvel fasse un film sur Black Panther. C'est un peu ces choses-là que je veux
Oui,
explorer dans ma thèse, ouais.
c'est clair. Tu parlais avant de la différence entre Alien 1979 puis Alien 2020. C'est clair aussi que oui, ce monde a complètement changé. Et ce qu'il y avait, bon, ça, je pense que ça n'a jamais été simple, le monde du fandom. En tout cas, il est né beaucoup autour de la science-fiction. Les premiers groupes de science-fiction déjà s'entendaient pas nécessairement super bien, les Futurians et les autres. Il y avait déjà des clivages politiques, justement, les Futurians qui étaient plutôt New Deal et qui étaient très ce qu'on appelait à l'époque progressiste, versus des fans du type Heinlein, tout ça, qui incarnaient un peu plus une sorte de monde de nostalgie un peu conservatrice pour les valeurs états-uniennes, tout ça. Donc, je pense que ça n'a jamais été simple. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'avant, il y avait un signe d'identité beaucoup plus. Quelqu'un qui s'intéressait à la science-fiction, pas seulement dans les années 30, mais même quand moi j'étais jeune, c'était déjà, il y avait une sorte de connivence ou de complicité qui se créait. C'était genre, ah waouh, t'aimes la science-fiction. Maintenant, quelqu'un qui aime la science-fiction, c'est vraiment monsieur tout le monde. C'est-à-dire que
C'est ça.
maintenant.
Le Comic-Con est ouvert à pas
Ouais.
mal tout le monde qui s'intéresse, c'est-à-dire presque tout le monde. C'est dans les plus gros événements lucratifs aujourd'hui.
On dirait que maintenant, ce qui est un peu bizarre, c'est quelqu'un qui te dise non, mais moi, la science-fiction, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est
Ouais, c'est ça.
un
Ça.
peu
Comment ça, t'as pas écouté Game of
ouais,
Thrones?
un peu limite outsider. Donc, c'est assez curieux parce qu'on est passé du outsider qui passait son
Ouais.
temps à être dans ces mondes-là.
Ça. Et à la fois aussi, on voit que c'est ça, monsieur, madame, tout le monde s'intéresse à justement à Star Trek ou Game of Thrones, mais l'intensité de la lecture est quasiment aussi élevée qu'elle est dans les communautés de fans, hein, au sens où on ne fait pas juste dire des platitudes sur Game of Thrones, on essaie d'analyser la série, puis on chiale sur le traitement de nos personnages préférés et compagnie. Hein. Donc, il y a comme une espèce de l'intrusion de tous ces modes de lecture et d'interaction de la culture participative qui finissent par. Je veux dire, contaminer la manière dont on consomme la culture aujourd'hui, peu importe, comme si on était fan ou pas avant.
C'est un effet aussi paradoxal du fait que c'est devenu. Il y a un moment où Joe Dante disait dans un des multiples documentaires, parce qu'il est dans tous les documentaires, c'est un peu comme Corman ou quelques autres, mais il disait quand on a vu Jaws, tous les gens qui faisaient des films de série B, on a compris que c'était fini. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de série B parce que la série B était devenue série A. Donc, au fond, les petits films fauchés de science-fiction, d'horreur et tout ça, c'était un peu le signe que c'était fini. Maintenant, c'était un matériel qui devenait le matériel de l'industrie hollywoodienne au premier titre.
Ouais.
Donc, au fond, ce changement de statut a fait que, de toute façon, ce n'est plus du tout la même. On est plus du tout face à la même dynamique.
Non, non, mais c'est ce que l'industrie culturelle fait. Ça fait juste passer, prendre la série B puis l'amener à la série A, puis on recommence le processus. Maintenant, il va en avoir une nouvelle qui va émerger, qui va être reprise. On s'en sort pas, là, parce que j'ai l'impression qu'on s'en sort pas.
Oui, ben là, c'est aussi parce que là, le processus s'est tellement accéléré, globalisé, magnifié, hypertrophié, disons. Mais bon, donc c'est très intéressant aussi cet autre versant. On espère que ça donnera lieu aussi à une publication et sans doute aussi intéressante. On espère aussi donc te revoir dans la nouvelle mouture donc qu'on est en train de mettre sur pied et donc pour d'autres discussions, conversations. Puis il y aura peut-être un nouveau alien sur lequel il faudra discuter.
Ben oui, c'est ça, là. Il y a des nouveaux comics qui
Lequel?
s'en viennent, il y a des nouveaux comics qui s'en viennent, mais ils vont changer.
Tu dis qu'il y a une série qui est annoncée.
Série télé qui ont annoncé à Noël, là, mais pas tellement de détails là-dessus encore.
Okay. Super. Bah donc, ça, c'est sûr que s'il y a la série, il faudra absolument que tu reviennes nous en parler.
Parce qu'il n'y en a pas eu encore de série télé.
Non, et c'est ouais, c'est ça.
C'est.
Maintenant que c'est vrai, ça devient un peu comme presque bizarre quand il n'y a plus la série télé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas la série télé?
C'est ça.
Avant, c'était pourquoi il n'y a pas le film. Maintenant, c'est pourquoi il n'y a pas la série télé. Et puis le tout ce qui va avec. Super. Donc bah, voilà, j'espère que ça a donné envie d'ouvrir un peu plus les horizons à ceux qui ont aimé quelques itérations du mythe alien. Donc merci encore, Mégane. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et donc, on se retrouve bientôt aussi sur le podcast.